que non, saintesprit.com n'existe pas. Par contre, vous pouvez essayer saintesprit.christ, ça marche. Alors, est-ce que c'est rapide? Pas toujours. Des fois oui, mais des fois non. Et je vais en parler justement. Je vais vous parler de quelque chose qui est important dans une vie de disciple. C'est justement la vie de l'esprit. Nous avons peut-être, par peur, dans certains milieux, des exagérations qui ont été faites dans d'autres milieux, de parler de l'œuvre de l'esprit dans la vie du disciple. Cette session s'appelle « Le Saint-Esprit et les croyants ». Et comme on a parlé d'abord du Saint-Esprit pour qui il est, maintenant on peut se tourner aussi vers ce volet de ce que le Saint-Esprit fait chez les croyants, puisque nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. J'ai remarqué effectivement que bien des fois, dans nos milieux, on parlait un peu moins du Saint-Esprit. Peut-être parce que, justement, comme je l'ai dit, il y a eu des exagérations, mais ces choses-là semblent se lisser. Je travaille avec GLO, une œuvre qui, en France, travaille avec les communautés Assemblées évangéliques de France, les CAEF. Il y avait d'ailleurs une délégation des APEB au congrès CAEF cette année. Les CAEF, en France, c'est l'équivalent des APEB en Belgique. Et voilà, je voulais simplement dire que la vie de l'esprit est quelque chose de tellement important, on ne peut pas juste contourner cette chose-là. Pour moi, c'est carrément central dans la vie d'un disciple. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la plénitude de l'esprit. De la plénitude de l'esprit. Je vais vous parler aussi du baptême de l'esprit. Je voudrais vous dire un mot sur ces choses-là. Mais avant, si vous voulez bien, je voudrais peut-être prier et puis remettre aussi au Seigneur ces moments. Avant de vous parler de la plénitude de l'esprit, après ma prière, je voudrais vous parler de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant. Ce qu'il fait jusqu'à le mener dans la lumière du Christ et puis ce qu'il fait après. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Que le Seigneur nous aide, qu'il m'aide, parce que j'ai envie de dire, comme à chaque fois, qui est suffisant pour ces choses? On parle de grandes choses, des choses que Dieu a faites. Nous, on est devant ce robinet en face du mur, ça marche, ça coule, mais il y a eu tellement de choses que Dieu a faites pour qu'on soit au bénéfice de sa grâce. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu bénisses ta parole une fois de plus, que ça soit ton esprit qui nous rappelle ce qui vient de toi. Et que tu puisses aussi effacer toute faillite qui pourrait provenir de moi, car en tant qu'homme, je suis faillible, mais ta parole, elle, est infaillible. Ô Seigneur, nous te prions pour que nous puissions toujours plus grandir dans la ressemblance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et merci de nous avoir accordé l'esprit qui avait été promis. Et merci, Seigneur, pour cet ordre de plénitude que tu nous lances encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, alors ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie du croyant, je pense d'abord, la première œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, c'est l'éclairage. La lumière est très importante. S'il n'y avait pas de lumière dans cette pièce, nous ne nous verrions pas. N'est-ce pas? Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 9, en parlant du Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je vous ai parlé brièvement de mon témoignage juste avant. Il est évident que le Seigneur m'avait éclairé. Comment est-ce que je serais parvenu à comprendre ces choses-là si le Seigneur ne m'avait pas éclairé? Le Seigneur est venu dans le monde pour éclairer certains hommes, tout homme. Et le Seigneur a dit aussi, quand le Fils sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Donc ça veut dire qu'il y a un éclairage de Christ qui, à un moment donné ou à un autre, va traverser la vie de tout homme. Et bien sûr, aujourd'hui, pratiquement, comment cet éclairage vient? Eh bien, par le Saint-Esprit, qui a été envoyé sur la terre et qui continue l'œuvre de Christ. Quand quelqu'un est éclairé à propos de l'Évangile, d'où est-ce que vous pensez que ça vient? Eh bien, ça vient de la personne de laquelle nous parlons depuis le début, du Saint-Esprit. Donc, première œuvre du Saint-Esprit, il éclaire tout homme. Comment est-ce qu'il éclaire tout homme, toute femme? Je suis sûr que derrière vos vies, il y a des histoires à raconter. Comment est-ce qu'il t'a éclairé? Raconte ton histoire. En regardant dans le rétroviseur, je m'aperçois que le Seigneur m'a éclairé des années avant ma conversion. Une rencontre, des circonstances, et puis l'éclairage est devenu de plus en plus fort. Des fois, je l'ai repoussé. Et puis, il est devenu encore plus persistant. Et à un moment donné, comme on dit à Marseille, j'ai craqué. La grâce de Dieu fait craquer un homme. C'est ce qu'on appelle le brisement, vous savez, en termes plus bibliques. Mais le Saint-Esprit éclaire, et ça c'est la première des choses qu'il fait. En hébreu, il est marqué, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Ici, on parle à des chrétiens qui n'ont pas connu le Christ physiquement et qui pourtant ont été éclairés. Et donc tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des millions d'hommes et de femmes qui vont être éclairés par le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit qui non seulement éclaire, mais qui convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Des phrases qui sont quelquefois mal comprises. Nous pensons quelquefois que le Saint-Esprit convainc dans le sens persuasion, vous savez, comme un bon représentant. Je vous convainc que mon produit est bon. Vous n'êtes pas convaincu encore? Je vais vous montrer. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le terme qui est employé ici dans convaincre, c'est un terme juridique. Vous êtes toujours avec moi là? Ouais, vous êtes dans une université, je ne sais pas s'il y a du droit ici, mais c'est vraiment du droit là. C'est juridique, vous voyez? C'est comme quand quelqu'un est convaincu de meurtre. Ça veut dire qu'il y a un avocat qui a amené assez de pièces au dossier pour que cette personne passe d'une présomption judiciaire à une conviction. Quand vous êtes convaincu de meurtre, vous pouvez être condamné. Vous voyez? Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit ici, c'est une œuvre judiciaire. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a été envoyé dans le monde. Et quand il sera envoyé, il a été envoyé, son ministère est de prouver que le monde s'égare. Et donc, quand un homme, une femme, arrive à la conviction personnelle cette fois-ci, que, ben voilà, on est sous conviction de péché, on parle de ça, non? Qui c'est qui nous a éclairés pour nous amener jusque-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul homme sur cette terre assez honnête pour reconnaître qu'il est pécheur? Vous pensez qu'il y a une seule femme sur cette terre assez honnête pour reconnaître qu'elle est pécheresse? Est-ce que vous le pensez? Si vous le pensez, j'ai le devoir de vous désillusionner. Nous avons tous été séparés de Dieu. Nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Il n'y avait aucun d'entre nous qui cherchions Dieu. Nous ne pouvions pas arriver à cette conviction de péché. Et si nous y sommes parvenus, c'est parce que nous avons quelqu'un qui nous a aidés. Et cette personne, discrète mais puissante, le Saint-Esprit. Quelqu'un qui se convertit est quelqu'un qui arrive au bout de lui-même. C'est quelqu'un qui est arrivé à cette conviction que devant le tribunal de Dieu, il mérite la condamnation. Il n'existe aucun homme, aucune femme sur cette terre qui peut arriver à cette conclusion sans que Dieu l'éclaire puissamment. Alors ce que nous le sommes par grâce. Nous n'avons pas à nous prévaloir de quoi que ce soit. Nous n'avons pas un jour dit, je suis assez sympa pour me mettre maintenant du côté de Jésus-Christ. Si nous sommes parvenus à cette conclusion, c'est parce que Dieu nous y a fait parvenir. Et donc nous devons tout à Dieu. Et l'œuvre du Saint-Esprit a été une œuvre d'éclairage, quelquefois très discrète, mais puissante dans nos vies. Comme je vous dis, je me suis converti à l'âge de 23 ans. Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis heureux de ma conversion. Mais je ne voudrais pas la revivre. Hein. Parce que ça a été difficile. Vous avez vu un accouchement sans douleur, vous? Nous avons vu 4 accouchements dans notre famille. Hein. Il n'y en a aucun qui a été sans douleur. Et je suis témoin de ces choses-là. Une conversion est douloureuse. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et vous croyez que c'est facile de reconnaître qu'on est pécheur ? Mais c'est l'inverse de tout ce qu'on veut penser. Mais la puissance du Saint-Esprit qui nous éclaire. Oui, je suis heureux d'être chrétien, mais je ne voudrais pas revivre ma conversion, comme vous pourriez dire, je suis heureux d'être vivant, mais je ne voudrais pas revivre mon accouchement. Parce que c'était douloureux, même si vous ne vous en souvenez plus. C'était douloureux. Une conversion est douloureuse. L'homme, la femme est menée jusqu'au bout. Et c'est le Saint-Esprit qui aide l'homme et la femme à aller jusqu'au bout. Il fait d'autres choses. Il donne aussi la foi, le Saint-Esprit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Si nous avons cru, c'est parce que nous avons reçu la force de croire. Nous avons reçu la force de nous repentir. Nous avons reçu la force de croire. Qui nous a donné cette force ? Le Saint-Esprit. Sans lui, nous n'aurions pas eu la force de croire. Et qu'est-ce que c'était cette force de croire ? Une décision ? Maintenant j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur ? Mais cette phrase, elle est nulle part dans la Bible, non ? Je ne l'ai pas trouvée. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. Je fais entrer Jésus-Christ en moi. Des phrases qui sont très occidentales, mais qui ne sont pas nécessairement bibliques. Quand un homme croit, quand une femme croit, qu'est-ce qui se passe ? Il est convaincu de péché, il est devant le tribunal de Dieu, il est fichu, il n'y a plus rien à faire. C'est la condamnation. Une opportunité. Jésus-Christ. La substitution. Il est mort à ma place. Et là, qu'est-ce que je fais ? La foi. Je m'appuie sur ce qu'il a fait. Je m'appuie sur ce qu'il a fait comme un condamné à mort s'appuie sur la dernière grâce qui lui reste. C'est ça la foi. Non, je n'ai pas ouvert ma porte à Dieu. C'est Dieu qui a ouvert sa porte à moi. Et la foi, c'est un abandon de ma propre justice et la reconnaissance que sur la croix, mon problème a été réglé une fois pour toutes. C'est un bon deal, comme on dit. Le meilleur de tous les marchés qu'un homme puisse rencontrer dans sa vie. Bien sûr, c'est l'offre de Dieu. Mais pour que l'homme puisse la mesurer, il faut l'éclairage du Saint-Esprit. Sans cela, on peut entendre l'évangile des dizaines de fois et avoir un cœur comme les plumes d'un canard. L'eau coule sur les plumes et ne touche jamais la bête. Mais à un moment donné, quand le cœur est touché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il faut expliquer l'évangile et l'expliquer encore et l'expliquer à un plus grand nombre et toujours à un plus grand nombre. Parce que le Saint-Esprit se sert de ce que nous disons. Je voudrais vous parler aussi de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un quand il est entré dans la vie de cette personne. Avez-vous lu ces passages dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16 ? Ne savez-vous pas ? Vous pensez qu'il y avait des chrétiens qui l'avaient oublié déjà dès le 1er siècle ? Ne savez-vous pas ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Vous connaissez ces versets, n'est-ce pas ? Une fois donné pour toute l'Église, l'Église devient le temple de Dieu. Une fois donné pour chaque croyant qui compose cette Église au niveau individuel. Nous faisons partie du temple de Dieu, c'est l'Église avec un grand E. Toi, assis sur ta chaise, qui est chrétien, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu peux être fier, comme disait Ralph Challis, quand tu marches dans la rue, parce que le Seigneur habite entre tes deux épaules. J'aime bien ça. Vous croyez que c'est un péché d'être fier ? L'homme, la femme, a besoin d'être fier. Il faut placer sa fierté quelque part. Mais si tu la places en Dieu, c'est une bonne chose d'être fier. Sois fier de ton Dieu. Il habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Puis-je te dire encore autre chose ? Le mot « temple », en fait, c'est mal traduit. Si on allait un petit peu plus loin, le terme qui est dans le grec n'est pas le mot « temple ». C'est le mot « sanctuaire ». Naos, c'est « sanctuaire ». Est-ce que tu sais ce que c'est que le sanctuaire dans le temple ? C'est le lieu très saint. c'est le Saint des saints. Je vais le redire. Ne savez-vous pas que vous êtes le Saint des saints de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Et maintenant, ça prend sens. Dans ce grand temple, il y avait un endroit spécial pour la présence. Le Saint des saints, le sanctuaire. Nous avons tous été... ne savez-vous pas que votre corps est le Saint des saints du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? J'ai envie de dire, tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es ce que Dieu a de plus cher. C'est dans le sanctuaire qu'est la plus grande intimité avec Dieu. Et tu as accès à cette intimité. Sanctuaire de Dieu. Voilà qui tu es. Un beau nom, hein ? Sanctuaire de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Extraordinaire. Le Saint des saints. L'endroit de la présence. J'ai presque envie de m'arrêter pour louer le Seigneur. Tiens, groupe de louanges, revenez, faites quelque chose. Il faut louer le Seigneur. On est le Saint des saints de Dieu. Extraordinaire. Je voudrais passer à un autre verset. Nous avons tous, en effet, 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 3. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et puis, vous avez ce verset aussi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai mis ces deux versets ensemble. Savez-vous pourquoi ? Je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Mais quand même, on n'est pas des charismatiques. Mais si, je vais vous en parler quand même, parce que la Bible en parle. Reprenons ce verset, vous voulez bien ? Il est marqué, nous avons, certains d'entre nous, qui avons eu une deuxième expérience, après la conversion, été baptisés dans un seul esprit. Non, c'est marqué tous. Et dans le langage original, c'est tous. Vous savez, même aujourd'hui, dans les églises dites charismatiques, on est revenu sur tout ça. Hein. C'est plus aussi tranché que c'était avant. Hein. Parce qu'en étudiant la Bible ensemble, on se rend compte que le baptême du Saint-Esprit fait partie de la conversion. Ça fait partie du Pâques. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Nous n'avons pas à attendre une deuxième expérience. Je vais prendre un exemple. Nous avons eu 4 enfants. En tant que papa, courageux, j'ai assisté aux 4 accouchements. L'infirmière m'avait dit, hein, si vous tombez dans les pommes, on enjambe votre corps, on s'occupe que de votre femme. C'est bon, je viens quand même. Bon, je te tenais un peu la main, je ne faisais pas grand-chose, mais j'ai vu et j'ai compris quelque chose. J'ai vu comment un enfant naît. Et j'en ai parlé à un ami qui est médecin. Il est, comment on dit ? Un médecin qui s'occupe des femmes, c'est un gynéco, voilà. C'est rigolo. Hein. Quand je fais un sport, au début de l'année, je dois m'inscrire, j'ai besoin d'un certificat médical, je demande à mon ami qui est médecin, il est gynéco. Alors, des fois... Et comme ça, j'ai une autorisation pour faire de la natation ou de l'athlétisme. Il me fait les ordonnances gratuites. Et j'ai demandé à cette personne, ce gynéco, comment est-ce que c'est qu'un accouchement ? Parce que toi, tu sais plus s'il y a un médecin. Il m'a dit, voilà, un enfant, pendant 9 mois, il vit dans le ventre de sa mère, il fait partie d'un certain milieu. Il est comme aquatique, si tu préfères. Et puis, quand il naît, il est dans le milieu aérien, c'est-à-dire l'air. Il change donc de milieu. Il passe de l'eau à l'air. OK ? Jusque-là, je comprenais sans être médecin. OK. Il m'a dit, tu sais, quand il est plongé dans l'air, le terme baptême veut dire plongé. Vous avez été baptisé. Vous savez ? Vous avez été baptisé dans un seul esprit. Vous avez été plongé. Quand le bébé est plongé dans l'air, qu'est-ce qui se passe ? On attend en général dans la salle d'accouchement, est-ce qu'il va crier ? Hein, et quand il ne crie pas, c'est pas bon. Mais quand il crie, qu'est-ce qu'on est content ? Et on se dit, ah, il a une belle voix, hein, comme son père. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? C'est parce que quand le bébé est plongé dans l'air, mon ami qui est médecin m'a expliqué, eh ben, il y a la pression de l'air sur lui, Et sur ses poumons, il n'y a jamais eu d'air dans ses poumons. Ses poumons, ils sont tout fripés, tout rabougris, oui. Et la première fois qu'il va respirer, qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir la bouche, il va avoir un appel d'air, l'air va rentrer, va déplier ses poumons, et ça va lui faire l'effet du feu. Ça va lui faire mal. Heureusement que je ne m'en souviens plus. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? On crie. Et quand on a fini de crier, qu'est-ce qu'il faut faire? On reprend son souffle pour crier encore et on respire. Vous voyez? Plongé dans le Saint-Esprit, nous avons été plongés dans le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance et en même temps nous avons reçu l'Esprit en nous. Quand l'air rentre dans le bébé, il se passe un état d'équilibre dans son sang qui a maintenant de l'air, équilibre dans ses poumons et il vit dans le milieu aérien qui est le nôtre sans plus avoir à même se poser la question. Il est complètement à l'aise, c'est son milieu. Qu'est-ce qui nous est arrivé à la conversion? Nous avons été plongés dans le Saint-Esprit et en même temps, nous avons reçu l'Esprit en nous. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. La nouvelle dimension, surnaturelle. Et en tant que chrétien, ben vous le vivez très bien. Vous faites déjà partie du royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre entre la réalité de Dieu et vous qui a été opéré par le Saint-Esprit. Ça valait le coup de parler à mon ami médecin, non? Alors, est-ce que vous devriez chercher l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Oui ou non? Je ne pense pas. Non. Parce que vous l'avez déjà reçu à la conversion. Est-ce que vous devriez chercher à recevoir l'Esprit de Dieu en vous? Non. Si vous êtes vivant dans le royaume de Dieu, vous avez reçu cet esprit-là. Ces choses sont arrivées. Elles font partie de votre histoire. Et c'est la raison pour laquelle vous vivez avec moi, déjà, dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit encore, et je vais vous parler de plénitude, j'y viens. La Bible nous dit qu'il nous régénère. Quand ça se passe, nous sommes recréés. Régénérer veut dire être recréé. J'enseigne le livre de la Genèse depuis 18 ans à l'Institut biblique de Genève, un institut que je recommande hautement. Et en fait, le mot Genèse, quand on parle de régénération, ça vient de là. On a été régénéré. Donc on a été recréé, mais complètement recréé. On a été recréé complètement. Le Saint-Esprit venant en nous nous a recréés, pas uniquement intérieurement, spirituellement, mais même physiquement. Cela n'est qu'une question de temps. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont recréés et ils sont en route vers ce processus de recréation totale qui arrivera à la résurrection. Il nous a régénérés. Ne limitons pas, s'il vous plaît, la régénération à simplement une recréation intérieure. Nous faisons partie de la nouvelle création. Et les choses qui sont devant nous sont aussi sûres que celles qui nous sont déjà arrivées. Amen. C'est notre espérance. Il l'adopte aussi, le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous avons été adoptés par Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous donne cette assurance que nous sommes adoptés par Dieu. Chaque fois que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu pries la prière du Seigneur, notre Père, et que tu peux dire ces mots avec toute la conviction de ton cœur, tu fais démonstration que tu es adopté, tu es fils ou fille de Dieu par adoption. C'est une belle expérience, la prière, parce qu'elle commence par les mots qui nous rappellent notre identité. Nous avons été adoptés. Un jour, je faisais une étude biblique, et puis il y avait cette femme qui arrive avec une bouteille de champagne. Waouh! Ok? Une bouteille de champagne, avant une étude biblique, je n'ai pas trop l'habitude. Mais comme j'aime le champagne, je ne me suis pas fait prier. Ils servaient les coupes de champagne, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de célébrer là? Cette femme voulait avoir un enfant. Elle ne pouvait pas en avoir. Et donc, elle était entrée dans un processus d'adoption. Après des mois, elle avait enfin pu adopter son enfant. Et elle venait avec cette bouteille de champagne pour nous dire, ça y est, l'adoption a été validée, l'enfant va arriver. et elle était tellement heureuse. Et là, j'ai compris. Cette femme, cet enfant, elle l'a désiré. Elle ne l'a pas eu par hasard. Elle a été loin pour l'avoir. Elle a payé. Elle s'est heurtée à de la bureaucratie, à des gens compromis. Elle a persévéré. Elle est allée jusqu'au bout. Elle a ramené ce petit. Et aujourd'hui, elle nous offre le champagne. Bien sûr, je vais boire une coupe avec elle. Nous avons été adoptés. Le processus a été long. Dieu a été très loin. Il est descendu jusqu'à nous. Il a souffert. Il a été en contact avec des autorités corrompues. On l'a crucifié après un simulacre de procès. Mais tout ça, c'était pour nous adopter. Nous avons été désirés. Nous ne sommes pas chrétiens par hasard. Tu as beaucoup de prix aux yeux de Dieu parce qu'il t'a désiré. Et le jour où tu t'es converti, les anges ont fait péter une bouteille de champagne pour toi. Tu le sais, ça ? Et bien sûr, parce qu'il y a de la joie dans le ciel chaque fois que quelqu'un se convertit. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous rappelle. Notre Père, nous sommes adoptés, nous avons été choisis. Pour Dieu, nous sommes précieux. Même si à nos propres yeux, on a du mal à comprendre pourquoi nous sommes si précieux pour lui. Je vais vous parler de la plénitude, j'y viens. Je voulais juste vous dire avant que le Saint-Esprit nous scelle aussi. Il est écrit dans Éphésiens 1:13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, ensuite, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et un peu plus loin, « Lequel est un héritage de notre... Pardon, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la gloire, à la louange de sa gloire. » Nous avons été scellés. Nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit est la marque de notre appartenance au Seigneur. Non, pas l'appartenance à une église. Non, pas parce qu'à un moment donné, j'ai signé une déclaration de membre. Non. Devant le trône de Dieu, c'est la marque du Saint-Esprit qui détermine si nous lui appartenons ou pas. Et puis nous avons reçu les arts. Vous savez ce que c'est que les arts ? Vous savez qui a inventé les arts ? C'est le peuple juif. Vous le croyez ? Qu'est-ce que vous faites quand vous donnez des arts à quelqu'un ? Vous allez acheter une voiture, elle vous plaît. La personne vous dit, ok, je vais la garder pour vous, mais vous me donnez des arts. Allez, d'accord, vous donnez, je ne sais pas moi, 3000 euros d'arts pour cette voiture, qui en vaut beaucoup plus. Et puis, vous rentrez chez vous, vous parlez avec votre femme, et votre femme vous dit, mais t'es fou quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, mais je ne peux pas revenir en arrière parce que j'ai donné mes arts. 3000 euros d'art. Si maintenant je me dédie de ma parole, qu'est-ce qui va arriver ? Si je vais voir le garagiste et je dis, votre voiture, j'en veux plus. Il va me dire, ok, mais les 3000 euros, il va les garder, non ? C'est les arts. Nous avons reçu les arts du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les arts du monde à venir. Si Dieu revient sur sa parole à propos de votre salut, qu'est-ce qu'il perd ? D'après cette parole, il perdrait le Saint-Esprit. Vous imaginez la Trinité perdre une personne ? Absolument impossible. Et c'est donc un verset de plus de l'assurance de notre salut. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu ne va plus jamais revenir sur sa parole. Parce qu'il nous a donné la marque la plus grande d'appartenance, une des personnes de la Trinité. Waouh ! Vous pensez que Dieu serait stupide comme cette personne qui renoncerait à César ? Je parle des 3000 euros ? Jamais de la vie. Et donc, Dieu ne va jamais renoncer, jamais revenir sur sa parole. Tu coûtes cher, très cher pour lui, très très cher. Tu es précieux. Amen. Je vais vous parler de la plénitude bientôt. Il lui donne aussi l'onction pour le service. Vous savez, il va nous donner le Saint-Esprit, quand il vient chez nous, dans notre cœur, il va nous donner une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y aura peut-être pour toi un tournevis, pour moi un marteau, pour quelqu'un d'autre un maître, pour quelqu'un d'autre encore, ça sera un pinceau. C'est les dons spirituels. On n'a pas reçu tous les mêmes dons, mais tous, avec les capacités que nous donne l'Esprit, on peut travailler à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu connais le don que le Seigneur t'a donné? Tu as fait une enquête là-dessus? Tu es au courant de ce que c'est? Parce que quand tu vas servir le Seigneur avec les dons qu'il t'a donnés, tu n'auras jamais de burn-out, tu ne vas jamais être fatigué, parce que tu vas le faire avec la force qu'il te communique. Et ça va être un immense plaisir. Même si de temps en temps c'est un petit peu difficile, mais ce sont des pointillés par rapport à la ligne continue de comme ça fait plaisir de servir Dieu. Mais on s'éclate quand on sert Dieu, non? Mais il faut le servir avec sa force, pas avec la nôtre, parce que là ça devient très pénible. Mais avec sa force, c'est avec les dons qu'il nous a donnés qu'on sert le Seigneur. On sert Dieu avec les capacités de Dieu, et non pas avec les capacités de l'homme. Mais souvent, on résume le Saint-Esprit à ses dons. C'est très dommage. Les dons de parler en langue, les dons de guérison, est-ce que ça existe, ça n'existe pas? Et on réduit le débat avec le Saint-Esprit à juste, mais des questions de dons, quoi. C'est comme si je disais à ma femme, ma chérie, je t'aime tellement parce que tu sais faire la blanquette. Elle sait, elle rigole parce qu'elle sait que si je lui disais ça, elle le prendrait très mal. En fait, je ne l'aime pas parce qu'elle sait faire la blanquette. Je l'aime pour la personne qu'elle est. Quand on réduit le Saint-Esprit à ce qu'il peut faire, à des dons, on devrait d'abord le considérer comme une personne, n'est-ce pas? Pour ce qu'il est, avant même de ce qu'il peut faire en nous. C'est pas par nos dons que nous serons jugés. Billy Graham, qui a amené, d'après les records, 1 million de personnes à Christ, vous imaginez 1 million de personnes à Christ? Quand il va arriver devant le trône de Dieu, il ne va pas dire « j'ai amené 1 million de personnes à Christ » et Dieu va lui dire « bravo, les anges se lèvent s'il vous plaît, bravo, 1 million c'est pas mal ». Moi j'arrive avec simplement une quinzaine, bon l'ovation sera un peu moindre, passe quand même. Mais non, nous serons jugés non pas pour les dons, parce que les dons, l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu évalue en nous, c'est notre caractère. C'est la transformation de notre être intérieur. C'est ce que nous devenons en étant. C'est ce que nous sommes. Et c'est ça que Dieu va évaluer lors du tribunal de Christ. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes. La transformation du disciple par l'action du Saint-Esprit. Les dons, le boulot. Mais qui tu es est beaucoup plus important pour Dieu que ce que tu fais. Qui tu es? Et Dieu t'a accordé le Saint-Esprit pour que tu sois transformé de gloire en gloire et que tu deviennes semblable à la personne de son Fils. L'enjeu est ton caractère, pas ce que tu fais. Alors maintenant, je vais te parler de la plénitude du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une des trois personnes de la Trinité. Est-ce que vous avez déjà prié à propos de la Trinité, réfléchi à propos de ces choses? Certaines personnes hérétiques pensent que le Père et l'Esprit et le Fils, c'est pareil. C'est un seul Dieu qui se manifeste de trois façons différentes. Mais nos frères, du IIIe siècle après Jésus-Christ, avaient déjà expliqué que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père, le symbole d'Athanase. Extraordinaire. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Et donc dans la Trinité, ce que je crois comprendre avec mon petit entendement humain, éclairé par le Saint-Esprit, c'est que voilà trois personnes en communion étroite, en communion d'amour, en communion d'intention. Mais il n'y a pas fusion entre le Père et le Fils. Il n'y a pas fusion entre le Fils et l'Esprit. Trois personnes distinctes et en communion étroite. Quand le Seigneur nous demande d'être remplis du Saint-Esprit, il ne nous demande pas d'être en fusion avec le Saint-Esprit. Ceci, j'ai envie de dire, c'est l'erreur que l'on fait dans les cultes païens. Dans les cultes païens, quand quelqu'un fait du vaudou ou quand quelqu'un fait du spiritisme, il rentre en fusion avec un esprit. Et l'esprit devient lui, et lui devient l'esprit à tel point qu'on ne sait plus qui c'est qui parle. Quand on parle d'être rempli de l'esprit, le Seigneur ne nous demande jamais d'être en fusion avec l'esprit. Il nous demande d'être en communion avec l'esprit, en communion étroite. Le Saint-Esprit respectera toujours qui tu es. Tu ne perdras jamais le contrôle de toi-même en étant rempli de l'esprit. Tu peux être rempli de l'esprit au volant de ta voiture. Tu peux être rempli de l'esprit en allant au travail. Tu peux être rempli de l'esprit en parlant à un voisin. Et c'est ça le miracle de la vie chrétienne. On n'est pas rempli de l'esprit en devenant quelqu'un de complètement extatique, de débranché de toute la réalité terrestre. Non, mes amis. Nous sommes appelés à être en communion les uns avec les autres, pas en fusion les uns avec les autres. Nous ne pourrons jamais être en fusion avec Dieu. Dieu est Dieu et nous sommes ses serviteurs. Mais nous sommes appelés à être en communion étroite, la plus étroite qui existe avec Dieu. Et donc, il faut revoir un petit peu notre notion d'être rempli de l'esprit, la plénitude de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire rempli de l'esprit. C'est un terme qui veut dire être rempli continuellement, dans un terme grec, dans un verbe, dans un temps grec qui n'existe pas en français, ça veut dire d'être rempli continuellement, perpétuellement de l'esprit. L'image est un verre que on va mettre sous une fontaine. Au milieu du village, il y a une fontaine et l'eau coule, vous vous rappelez ? Vous prenez votre verre et vous le mettez sous la fontaine. La fontaine va remplir le verre. Le verre va déborder. Vous laissez le verre sous la fontaine. Le verre déborde, déborde et déborde encore. Quand il dit « soyez remplis de l'esprit », c'est cette image-là qu'il emploie. Le verre qui déborde constamment, de façon perpétuelle. Ce n'est pas juste quelques gouttes et c'est bon, j'ai ma dose. Non, ce n'est pas ça. C'est laissez-vous remplir continuellement et de façon permanente par le Saint-Esprit. Et donc j'en viens à la conclusion qu'être rempli de l'esprit n'est pas une expérience. C'est un mode de vie. Le disciple est appelé à vivre la plénitude comme un mode de vie. Tu peux être rempli de l'esprit, maintenant, ici. C'est un mode d'être. Et c'est ton privilège en tant que chrétien. Alors j'ai envie de te dire, mais éclate-toi avec le Seigneur. Mais sois rempli du Seigneur. Vis ta vie chrétienne avec la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est un ordre. Alors vous allez me dire, ok, mais comment ? Comment ? Je voudrais vous parler d'une école. On est dans une école, l'école apostolique. L'école des apôtres. Si on pouvait revenir au temps du Nouveau Testament, on verrait qu'il y a une école qui est une école apostolique. Elle est dans tous les apôtres, que ça soit chez Paul, que ça soit chez Pierre, chez Jacques, chez Jean, on retrouve la même école. Ils enseignaient les disciples selon l'école qu'ils avaient reçue du maître. Vous et moi, on a beaucoup compliqué les choses des fois. Revenir aux bases est extraordinaire. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient aux disciples ? Nous avons un de ces exemples, parmi tant d'autres, dans Éphésiens, au chapitre 4. Écoutez ça, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça ne vous choque pas cette expression ? Appris Christ. J'ai regardé les érudits, les commentateurs. Ils disent, c'est la seule fois que c'est écrit comme ça dans le Nouveau Testament. On apprend quelque chose, ou on apprend de quelqu'un, mais on n'apprend pas quelqu'un. Et là, c'est marqué apprendre quelqu'un. On apprend Jésus-Christ. On apprend quelqu'un, on n'apprend pas une liste de choses, on apprend une personne. On apprend à être une personne. On apprend une personne elle-même. C'est drôle comme c'est écrit, hein ? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Ils instruisaient les disciples, et leur enseignement, c'était Christ. Alors comment est-ce qu'ils enseignaient Christ aux disciples ? Comment est-ce qu'ils enseignaient cette personne aux disciples ? Eh bien, la suite du passage nous le montre. Au verset 22, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous êtes avec moi ? C'est là où il faut mettre une vitesse au cerveau. C'est l'enseignement apostolique. Ils avaient oublié d'être bêtes, ces gens-là. Hein ? Parce que quand on réfléchit à ce qu'ils disent, mais c'est extraordinaire. On peut le remettre sous une autre forme, avec ce petit tableau. Oui, les trois étapes de la vie chrétienne. Il disait ceci. Se dépouiller de l'ancienne nature, être renouvelé dans son intelligence, revêtir l'homme nouveau. C'est les trois étapes que vous voyez dans le passage que je viens de lire. La vie chrétienne, la plénitude du Saint-Esprit. La vie chrétienne ne se fait pas en deux étapes, mais en trois. L'enseignement des apôtres. La première des choses, renoncer. Renoncer aux choses de l'ancienne nature. Mais il parle à des gens qui sont chrétiens. Et qu'est-ce qui va se passer quand les gens qui sont chrétiens renoncent aux choses de l'ancienne nature ? Eh bien, ils sont remplis par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va prendre la place de ce à quoi ils ont renoncé. Et leur plénitude va être augmentante, en croissance. Avez-vous lu déjà ces lignes ? Car le sentier du juste est comme le soleil, quand il brille dans sa force, il se lève le matin jusqu'au zénith. La plénitude est quelque chose qui doit grandir dans notre vie. Et comment est-ce qu'elle grandit ? Eh bien, par le renoncement. Tu m'as dit, tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on appuie sur un clic ? Non, c'est pas comme ça. C'est en renonçant à ce que le Seigneur nous montre. Et comment est-ce qu'on peut renoncer ? Eh bien, chaque fois que le Saint-Esprit me montre quelque chose qui devient conscient, je ne suis pas appelé à renoncer à des choses inconscientes, ok ? Mais à des choses conscientes que le Seigneur me montre à ce moment-là quand j'y renonce, eh bien, il y a l'assurance que le Saint-Esprit emplit maintenant cet aspect de mon être intérieur. Et la plénitude augmente. Deuxième expérience, donc, si on peut remettre ce tableau, la deuxième expérience, c'est la plénitude. Renoncement, plénitude. C'est le moment de l'enseignement dans la convention, là. Vous avez remarqué ? L'enseignement apostolique. C'est le moment où on se rend compte de ce que enseignaient les apôtres aux disciples. Et ce n'était pas rien. Et ensuite, la marche par l'esprit, c'est la troisième étape, revêtir l'homme nouveau. Quand un homme ou une femme est rempli de l'esprit, il n'a pas à s'en faire pour marcher par l'esprit. La vie par l'esprit, c'est la conséquence d'être rempli par l'esprit. C'est ton évangile. C'est l'évangile que toi, tu vas écrire avec ta propre vie. Mais pour écrire cet évangile, il faut que tu recherches constamment la plénitude. Pour le reste, ne te casse pas la tête. Le Seigneur, lui-même, va agir dans ta vie et les choses que tu vas faire, même si ce sont des choses qui sont banales, elles seront faites dans la puissance de l'Esprit et tu n'auras peut-être des fois pas toi-même idée de l'impact que ces choses que tu fais vont avoir sur ton entourage. Nous sommes les hommes et les femmes d'une seule idée. Cette idée, ou plutôt cette personne, c'est Christ. Et cette personne, nous pouvons la vivre d'une manière réelle en recherchant la plénitude de l'esprit. C'est notre but, notre unique but dans la vie, la communion avec Dieu, rendue possible par le Saint-Esprit. Alors oui, des fois ça coûte, parce que je sais ce qui me manque pour être en communion avec le Seigneur. Je sais ce que le Saint-Esprit m'a dit et je dois y renoncer. Ça, c'est le coût d'un disciple. Mais le prix est beaucoup plus important que ce qu'on donne. On reçoit beaucoup plus dans la plénitude que ce qu'on lâche finalement et qui nous sépare de Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager, si c'est votre cas et que vous souffrez d'un manque de plénitude, de demander au Seigneur qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je ne vis pas ces choses, et s'il vous montre quelque chose que vous devez régulariser ou quelque chose que vous devez confesser, mais faites-le le plus vite possible parce que vous êtes appelé à la plénitude. Et quand vous êtes dans cette plénitude qui n'est pas un état extatique. Quand vous êtes dans cette plénitude, votre vie est tout simplement la marche par l'esprit. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous marchez comme Christ aurait marché lui-même. Waouh ! C'est un plan de carrière ambitieux ? C'est le plan de carrière du Seigneur. Si la plénitude venait à être perdue, je vous invite à la maison à lire tranquillement 1 Jean 1,9, Éphésiens 4,27 ou Éphésiens 5,18. 1 Jean 1,9 vous dit, si nous reconnaissons, si nous avons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Si le Seigneur t'a montré quelque chose, confesse-le et confesse-le le plus vite possible. Fais-le maintenant. N'attends pas. Le Seigneur se languit, comme on dit dans le Sud, de te remplir afin que tu vives sa vie chrétienne, sa vie qui est surnaturelle, qui lui appartient à lui. Éphésiens 4, 27 dit, si vous vous êtes mis en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Un péché non confessé peut donner accès au diable dans ta vie. Et alors là, tant qu'on n'a pas confessé ce péché, il y a un contrôle de l'ennemi sur une partie de notre vie. Je dis bien sur une partie de notre vie. Différente de l'expérience de possession, on ne parle pas de ça. Mais quand le Seigneur a donné ce verset, c'était à des chrétiens qui avaient péché et qui n'avaient pas confessé leur péché. Et ce péché, en s'étant installé, avait donné accès au diable dans leur vie et peut-être même dans leur église. Et puis bien sûr, Éphésiens 5,18 qui dit, mais soyez remplis de l'Esprit. Et si tu as confessé ta faute, si faute il y a, parce qu'il n'y a pas toujours faute, si tu as confessé ta faute, eh bien le Seigneur te remplit. Et qu'est-ce qui empêche que tu vives cette plénitude? C'est, je pense, Jules Marcel Nicole qui disait, certains chrétiens supplient Dieu de les remplir, alors qu'en quelque sorte, c'est comme si Dieu les suppliait de leur dire, mais crois que je te remplis de mon Saint-Esprit. Arrête de douter et crois. La plénitude, c'est un ordre, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Alors si le Seigneur ne te reproche rien, eh bien tu es dans un état de plénitude. Tout simplement. Le plus je grandis avec le Seigneur, le plus j'avance avec lui, et le plus la vie chrétienne devient simple. Les voies du Seigneur sont simples. C'est le cœur humain qui, quelquefois, est un petit peu tortueux. N'est-ce pas? J'ai terminé. Cette histoire de plénitude est importante. En fait, c'est le but de notre vie. Un jour, un homme, un vendeur de tonneaux, avait plusieurs tonneaux sur sa brouette et il devait livrer les tonneaux. Vous savez, les tonneaux, c'est là où on met le bon vin en France. Je sais qu'en Belgique, vous buvez autre chose. Il y a eu un chaos sur la route et un des tonneaux est tombé sur la route. Vous savez comment est fait un tonneau? Ce sont des lattes avec des cercles. Vous voyez l'image? Et en tombant sur la route, le tonneau s'est brisé à plusieurs endroits. Il y a eu 2 ou 3 lattes qui ont été brisées. Quand on est arrivé à la cave, on a rempli le tonneau de vin. Jusqu'où est-ce que vous pensez qu'on a pu remplir le tonneau? Ce n'est pas un exercice de maths, hein, je ne vais pas vous demander. Et en combien de temps? Non. Jusqu'où est-ce qu'on peut remplir ce tonneau? Jusqu'à la première brisure, n'est-ce pas? Ok, donc il faut la réparer. Une fois qu'on l'a réparé, on continue de remplir. Et jusqu'où est-ce qu'on peut le remplir? Jusqu'à la suivante. Il se peut que le Seigneur, à la fin de cette intervention, te montre un domaine de ta vie où il faut que tu fasses une démarche. Tu es peut-être dans ton esprit en train de dire tellement de choses qui ne vont pas. Non, le Seigneur va peut-être montrer un seul domaine. Ce domaine-là, prends-le au sérieux. Ta plénitude augmentera. Jusqu'à la prochaine fois où il te montre autre chose. Et s'il te montre autre chose, ce n'est pas parce qu'il est retors et qu'il veut que tu sois malheureux. Au contraire, c'est pour te remplir. Toujours plus. Afin que tu débordes. Ça, c'est la limite de mon image avec le tonneau. En général, en France, on ne remplit pas les tonneaux pour qu'ils débordent. Une fois qu'ils sont pleins, on les met dans une cave. Mais l'image pour toi, c'est que tu débordes du vin de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et donc, une seule chose à la fois, un seul dossier à la fois. Mais je te renvoie maintenant à l'écoute de l'Esprit Saint lui-même. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va te dire après que j'ai parlé? Quel domaine de ta vie va-t-il te montrer? Quel est le pas suivant pour toi? Que ta plénitude augmente et que ton sentier soit comme le sentier du juste. Le soleil se lève et il va croissant jusqu'au zénith. Que le Seigneur bénisse sa parole.